Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
La cour est coupée en quatre, c'est-à-dire qu'il y a les bleus et les rouges, une couleur à une partie de la cour. On peut amener des affaires personnelles, mais tu peux y jouer que tout seul.
La reprise de l'école aujourd'hui, enjeu majeur du déconfinement, une rentrée pas comme les autres forcément, en tout petit comité avec des règles très strictes à respecter. On verra comment s'est passée cette première journée. Des plages du littoral français pourraient rouvrir dès ce week-end. En revanche, les Parisiens n'auront pas accès aux jardins publics malgré les demandes répétées de leur maire. Le ministre de la Santé dit non.
Pour avoir vu les images sur les quais de Seine, non, nous n'ouvrirons pas les parcs et jardins à Paris, en Ile-de-France, ainsi que dans les autres régions qui sont classées rouges.
Dans ce journal également, Guillaume Bier vous dira tout sur la nouvelle autorisation nécessaire pour vous déplacer à plus de 100 km de chez vous. Et puis on s'intéressera aussi à un secteur qui souffre particulièrement, celui des cures thermales qui devaient théoriquement entamer leur saison.
C'est pas moins de 300 emplois directs et en emploi indirect, c'est évidemment plusieurs milliers d'emplois. C'est des personnes qui consomment sur le territoire, donc oui, ça a un impact économique extrêmement fort.
La peur d'une deuxième vague, cette peur, tous les pays qui entament leur déconfinement y pensent. À Wuhan, en Chine, après l'apparition de nouveaux cas, un quartier entier a de nouveau été placé en quarantaine. Toute la population de la ville va être testée. Nous serons sur place. Et puis rien à voir avec le coronavirus. On verra que le joueur de foot, Adrien Rabiot, fait de nouveau parler de lui et pas forcément bien. Du côté de la météo, des températures bien en dessous des moyennes de saison et souvent beaucoup de pluie demain. Bref, une journée pas terrible du tout. Ne manquez pas les prévisions météo complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris a terminé en léger repli ce soir, moins 0,39%. Claire Lemaître nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières. Et puis comme chaque soir, 22h20, votre rendez-vous avec l'interview éco d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Dominique Schlecher, le PDG de Système U. On verra avec lui ce que le déconfinement change pour la grande distribution.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et après pratiquement deux mois de devoirs à la maison, de jeux, d'ennuis parfois et de cohabitation permanente, en tout cas avec leurs parents, ils sont partis ce matin, cartable sur le dos pour une rentrée pas comme les autres. Quelques dizaines de milliers d'élèves dans toute la France qui ont essentiellement découvert toutes les mesures mises en place pour respecter la distanciation et l'hygiène. Une école autrement donc. Alors comment s'est passée cette première journée? On part à Bordeaux où Stéphane Place a recueilli les réactions des intéressés à la sortie de l'école.
Gros cartable sur le dos, grand sourire aux lèvres, des enfants tout contents d'avoir repris le chemin de l'école. Fin d'une première journée marquée bien sûr par des changements d'organisation pour ces élèves de CP et de CM2 comme Gabriel et Anna.
La cour est coupée en quatre, c'est-à-dire qu'il y a les bleus et les rouges, une couleur à une partie de la cour. On peut amener des affaires personnelles mais tu peux y jouer que tout seul. On peut pas courir parce que sinon après c'est plus un mètre mais 10 mètres. Il y a deux tables, il y a une personne dessus, après sur la rangée d'après il y a personne et après il y a une personne.
C'est un peu compliqué les distances, puis c'est pas pareil, il y a moins de personnes, donc ça fait un peu bizarre.
Devant l'école, des pétales de fleurs peints sur le trottoir pour marquer les distances à respecter et des parents rassurés par les mesures de précaution sanitaire prises au sein de l'établissement.
Ça a été une longue tergiversation. On avait effectivement, en termes d'organisation, besoin que les enfants reprennent les cours, mais en même temps, la peur du virus est quand même présente. Bon, ceci étant, l'école a été très rassurante sur les mesures mises en place.
Elle est très contente de retrouver sa maîtresse et certaines de ses copines. En demi-classe. On a eu une bonne communication de la directrice de l'école. Elle a adressé un courrier très simple et très sympa pour les enfants. Voilà, dans les choses se font simplement.
Dans cette école du cours de la Somme, ici à Bordeaux, on accueille en temps normal 360 élèves. Aujourd'hui, ils étaient une cinquantaine dans les classes.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, dans la Vienne, à Chauvigny, après le foyer détecté la semaine dernière au sein de la direction du collège. Cette fois, c'est une enseignante intervenant dans une école qui a été testée positif au Covid-19. Du coup, la rentrée est repoussée jusqu'à nouvel ordre et tous les personnels scolaires sont en train d'être dépistés. Avec 24 heures de retard, les règles du déconfinement s'appliquent depuis ce matin avec la promulgation de l'état d'urgence sanitaire, en particulier la fameuse interdiction de parcourir plus de 100 km autour de chez vous, sauf motif impérieux, ce qui intéresse bien sûr beaucoup les Français. Alors, qu'est-ce qui est permis précisément? Guillaume Bier, dites-nous tout. Il y a d'abord une nouvelle attestation à remplir, encore une.
Oui, c'est la troisième version depuis le début de la crise sanitaire. Cette fois, elle ne s'appelle plus attestation, mais déclaration de déplacement. Elle est toujours sur le site internet du ministère de l'Intérieur à imprimer ou à compléter en ligne. Et par rapport aux précédentes, il y a pas mal de changements. En résumé, vous devez la remplir uniquement si vous sortez de votre département et que vous effectuez un trajet de plus de 100 km. Nouveauté aussi, cette distance de 100 km se calcule à vol d'oiseau depuis votre domicile principal ou désormais depuis votre résidence secondaire ou votre lieu de célibat géographique, précise le document. En fait, la règle, c'est d'avoir avec soi un justificatif de domicile de moins d'un an, une facture, un avis d'impôt ou simplement la carte grise de votre véhicule. Bref, un document à votre nom et adresse qui permet d'établir le point de départ de votre trajet. Et puis, il faut aussi un justificatif expliquant pourquoi vous faites ce déplacement, que ce soit en voiture, en train ou en avion, une convocation pour un examen, par exemple, ou pour un entretien d'embauche. Et pour ceux qui font de nombreux déplacements professionnels au quotidien, pas la peine de remplir cette déclaration tous les jours, mais il est conseillé d'avoir une attestation d'employeur pour éviter l'amende de 135 euros.
Les précisions importantes et utiles de Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1 à propos des transports en commun en Ile-de-France. Notez que pour éviter de revoir des scènes de passagers collés serrés, la ligne 13 du métro parisien fonctionnera à 100% dès demain matin. C'est non, le ministre de la Santé refuse la demande de la mairie de Paris qui souhaitait la réouverture des parcs et des jardins de la capitale pour une raison de santé publique, disait Anne Hidalgo. Il ne faut pas tout gâcher, lui répond Olivier Véran. La règle est la même pour toutes les régions classées rouges. Il faut dire qu'il y avait beaucoup trop de monde agglutiné hier soir sur les quais du canal Saint-Martin ou encore sur les quais de Seine. Et du coup, le ministre de la Santé rejette toute idée de dérogation.
Pour avoir vu les images auxquelles vous faisiez allusion hier sur les quais de Seine, de la volonté, encore une fois, on peut comprendre le réflexe, mais attention, ça peut être dangereux. Non, nous n'ouvrirons pas les parcs et jardins à Paris, en Ile-de-France, ainsi que dans les autres régions qui sont classées rouges, parce que, non pas qu'on n'a pas envie que les gens puissent sortir ou prendre l'air, mais que ça peut être extrêmement tentant, par le soleil que nous avons aujourd'hui, que les gens se regroupent trop, s'amassent trop, qu'ils ne respectent pas les groupes de 10 et qu'ils ne puissent pas respecter les conditions des gestes barrières.
La mise au point du ministre de la Santé, Olivier Véran, au micro européen de Claudia Bertram. Alors que le dernier bilan du nombre de victimes est en hausse, 348 nouveaux décès ces dernières 24 heures, mais le nombre de patients lourds en réanimation, lui, continue de baisser. Pas de réouverture des parcs et jardins à Paris, donc en revanche, certaines plages de Bretagne ou de la Méditerranée devraient pouvoir ouvrir dans les prochains jours, dans les Alpes-Maritimes par exemple, dès le week-end prochain, le préfet est d'accord. Mais attention, si les promenades, la baignade et la pratique de sport nautique individuel seront autorisées, pas question de faire la crêpe recto verso sur sa serviette. Bronzage et pique-nique y seront interdits. En Loire-Atlantique, les plages pourraient rouvrir dès demain. Information de notre correspondant Charles Guyard. La préfecture doit prendre des arrêtés qui accordent des dérogations aux communes. Alors comme nous tous, vous vous demandez sans doute à quoi ressemblera notre été, où, quand et comment allons-nous pouvoir partir. La question est encore en suspens. Demain, la Commission européenne doit rendre des recommandations sur l'ouverture des frontières et la France prépare une sorte de plan Marshall. 1,3 milliard d'euros d'investissement pour relancer le secteur du tourisme où les pertes sont considérables. Alors on parle beaucoup des bars et des restaurants qui souffrent terriblement, qui ne peuvent toujours pas rouvrir, mais les stations thermales souffrent également. Théoriquement, elles devraient en ce moment démarrer la haute saison, sauf qu'elles n'ont aucune perspective d'ouverture. C'est le cas notamment en Auvergne, réputée pour ses eaux bénéfiques. Jean-Luc Boujon.
Depuis deux mois, Vichy est une ville morte. Pourtant, en temps normal, le printemps, c'est la pleine saison pour la station thermale de l'Allier. Les curistes sont partout, dans les trois établissements thermaux, ainsi que dans les 20 hôtels de la ville. Mais là, tout est fermé. La date de reprise des activités n'interviendra pas avant mi-juillet, au mieux. Une catastrophe économique, selon le maire Frédéric Aguilera.
C'est pas loin de 300 emplois directs et en emplois indirects, c'est évidemment plusieurs milliers d'emplois, puisque des cures classiques, c'est 21 jours, donc obligatoirement, pendant 21 jours, c'est des personnes qui consomment sur le territoire. Donc oui, ça a un impact économique extrêmement fort.
Même chose à Châtel-Guyon, près de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. La société France Terme devait inaugurer il y a 15 jours un tout nouveau resort thermal de luxe. Mais le virus est passé par là. Tout est arrêté, explique Sylvain Serafini, PDG de la société.
C'est un gros coup dur parce qu'il casse la dynamique d'ouverture qui était pour le coup très intéressante. On était sur des niveaux de réservation très encourageants. C'est un projet très lourd, 35 millions d'euros investis pour un projet vraiment un des plus gros projets sur le domaine thermal en France.
Une situation qui inquiète d'autant plus que, comme à Châtel-Guyon, les établissements thermaux sont souvent implantés dans des petites villes de 5 ou 6 000 habitants dont ils sont la principale ressource. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit.
Il est 22h09, merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal et Édouard Philippe l'a confirmé aujourd'hui devant l'Assemblée. Les conseils municipaux élus dès le premier tour aux élections municipales du 15 mars vont pouvoir siéger. Ça concerne environ 30 000 communes de France sur 35 000 environ qui ont élu donc leur maire, sauf qu'il n'est jamais entré en fonction. Ce sera donc chose faite dans les semaines qui viennent, d'ici au 28 mai. Le feu vert a été donné après avis du conseil scientifique. Jean-Gabriel Bourgeois, attention, tout ça va se faire de façon très encadrée.
Oui, c'est la fin d'une longue attente de 2 mois dans plus de 80% des communes françaises. Avec la mise en place du confinement, les mandats des maires en place avaient été prolongés. Ils prendront fin lundi prochain, le 18 mai. C'est là qu'entreront en fonction les nouveaux élus. Charge à eux ensuite de se réunir entre le 23 et le 28 mai, dernier délai pour désigner le maire. Ces conseils municipaux d'installation seront très encadrés. Port du masque, une seule personne chargée du dépouillement et surtout 4 mètres carrés par personne. Hugo Bio 18 ans, maire de Vinzieux, 500 habitants en Ardèche, est ravi de pouvoir enfin récupérer les clés de la ville, mais ne sait pas si sa mairie sera assez grande pour accueillir le premier conseil.
Ça permet de mettre fin à toute l'incertitude et que rapidement on puisse se mettre enfin au travail et prendre les responsabilités pour lesquelles on a été élu. Comme on est une petite commune, on sera 11 conseillers municipaux. Je ne sais pas encore si c'est possible techniquement de le faire dans la mairie. Il faut qu'on regarde la superficie de la salle exactement et en fonction, on avisera si on le fait plutôt dans la salle de la mairie ou dans la salle communale.
Il reste maintenant à déterminer si le second tour pourra se tenir dans les 5000 communes restantes. Ce sera tranché après un avis du conseil scientifique d'ici le 23 mai.
Jean-Gabriel Bourgeois du service politique d'Europe 1. Redémarrer l'ensemble des chantiers en France d'ici la fin du mois, c'est le souhait du gouvernement, mais la profession, elle n'y croit pas. Le secteur du bâtiment prévient qu'une reprise intégrale est improbable dans l'immédiat. La Banque de France estime que ces 2 mois de confinement ont coûté 6 points de croissance. Au mois d'avril, l'activité a diminué de 27%. On parlait tout à l'heure du tourisme. Sachez que la compagnie Ryanair compte reprendre 40% de ses vols à partir de juillet avec mise en place de mesures sanitaires, notamment port du masque et prise de température. L'Espagne indique qu'elle va mettre en quatorzaine toutes les personnes arrivant de l'étranger. Cette mesure entrera en vigueur à partir de vendredi et au moins pendant toute la durée de l'état d'urgence. L'Islande prévoit-elle d'offrir aux voyageurs qui arrivent dans son aéroport international de se faire tester sur place afin d'échapper à une quarantaine. L'Algérie a annoncé aujourd'hui la prolongation des mesures de confinement jusqu'au 29 mai, c'est-à-dire après la fin du Ramadan, tandis qu'au Maroc, les écoles resteront fermées jusqu'à la rentrée de septembre. La Russie, elle, entame à son tour un prudent assouplissement des mesures de confinement feu vert de Vladimir Poutine. Alors tous les pays ont peur bien sûr d'une deuxième vague et un exemple d'ailleurs peut nous faire réfléchir. Le virus est de retour à Wuhan en Chine, berceau de l'épidémie. De nouveaux foyers apparus notamment chez un homme qui se pensait guéri. Du coup, eh bien, toute la population, 11 millions d'habitants, va être dépistée. Sébastien Lebelzik est le correspondant d'Europe 1 à Pékin.
Plus d'un mois après son déconfinement, la ville de Wuhan voit planer le spectre d'une deuxième vague. Hier, un quartier entier a été à nouveau placé en quarantaine, plus de 5000 personnes en isolement total. Après la découverte de 5 nouvelles contaminations, c'est un octogénaire contaminé au mois de mars et qui pensait être guéri qui a rechuté et contaminé ensuite sa femme et 3 autres personnes. Des contaminations en cascade, c'est ce qui inquiète les autorités chinoises qui lèvent très progressivement les mesures de confinement. À Wuhan, une grande campagne de dépistage systématique va être lancée. Dans cette ville épicentre de l'épidémie, la majorité de la population va être testée. Ça représente plusieurs millions de personnes et 13 districts de cette ville. La campagne de dépistage va durer 10 jours. Ailleurs en Chine comme à Pékin, plusieurs points de dépistage sont également installés, notamment à la demande des grandes entreprises qui veulent tester leurs employés. Et puis à Shanghai, c'est le parc Disneyland qui a pu enfin rouvrir hier. Mais le nombre de billets en vente est très limité et il est interdit de faire des selfies avec Mickey. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Voilà, pas de selfie avec Mickey. Le foot, les joueurs de Strasbourg ont repris le chemin des terrains aujourd'hui pour des séances physiques mais individuelles. Et puis ce nouvel esclandre autour d'Adrien Rabiot, le joueur de foot qui, souvenez-vous, avait déjà fait parler de lui l'an passé avec le PSG. Il jugeait ne pas être assez bien payé, il avait fini par être mis à pied. En équipe de France, avant le Mondial 2018, il avait préféré quitter la préparation plutôt que de rester en tant que simple réserviste, ce qui n'avait pas du tout plu à Didier Deschamps d'ailleurs. Et bien Simon Rubin, cette fois, c'est avec son club de la Juventus Turin que le Français de 25 ans semble en froid.
C'est effectivement pas la première fois qu'Adrien Rabiot fait parler de lui pour des problèmes de relations avec les institutions, voire avec l'autorité. Vous l'avez rappelé, cette fois c'est le journal italien La Stampa qui révélait que le joueur ne s'était pas montré à la reprise de l'entraînement de son club, la Juventus de Turin. Effectivement, il était encore à ce moment-là en France, où il a passé le confinement, où il a suivi un programme de préparation physique. Du côté de la Juventus de Turin, on s'est assez vite agacé. La Stampa parlait même d'une grève du joueur qui voulait protester contre un report de ses salaires pour raison de crise économique due au Covid. Alors, Adrien Rabiot a fait savoir aujourd'hui qu'il n'en est rien. Il n'a pas du tout fait grève. Il sera bien à Turin dès mercredi. Il avait simplement quelques doutes sur les conditions, notamment sanitaires, de la reprise. Alors, l'histoire semble loin d'être totalement éclaircie. Elle témoigne en fait des relations très fraîches entre Adrien Rabiot et son club, la Juventus de Turin, qui n'est pas convaincue ni par le niveau du Français depuis son arrivée en début de saison, ni par son comportement.
Les précisions de Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. La météo, vous avez reconnu la petite musique, on voit ça tout de suite avec vous Anissa Haddadi. Et pour demain Anissa, eh bien ce sera très pluvieux.
Et oui, encore Isabelle, de la pluie avec une perturbation très pluvieuse qui traverse le pays demain. Alors presque tout le monde sera touché. Seule la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, le Nord et la Corse resteront au sec demain. Pour toutes les autres régions situées au sud de la Seine, et bien demain la journée sera très humide. Des averses qui vont durer toute la journée et qui prendront dans l'après-midi un caractère orageux sur les Alpes, la vallée du Rhône et le sud du Massif central. Sur la Corse et le bassin méditerranéen, le vent se renforce. Attention, c'est le vent d'Est qui souffle avec des rafales pouvant atteindre les 90 km/h. Sur les côtes de la mer du Nord, sur la Manche, la pointe bretonne et le centre, là c'est le vent du Nord qui souffle et qui va venir bien rafraîchir l'atmosphère. Justement, les températures demain, elles sont bien en dessous des normales de saison, avec seulement 1 degré à Charleville-Mézières le matin, 3 à Caen et Nancy, 6 pour Strasbourg et Dijon, 7 à Paris, 12 à Nîmes et 14 à Nice. Et puis au meilleur de la journée, eh bien ça ne grimpe pas au thermomètre, avec seulement 11 degrés pour Poitiers, 12 à Châteauroux, 14 à Lille, 15 à Bordeaux et Clermont-Ferrand. On avait 10 degrés de plus il y a encore quelques jours. 17 à Paris, 18 à Lyon et jusqu'à 25 degrés à Ajaccio.
On pense à se couvrir demain. La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le PDG de Système U. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Il est 22h17, la bourse sur Europe 1, comme tous les soirs. C'est tout de suite et c'est avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui s'inquiète d'une nouvelle flambée des cas de contamination par le coronavirus.
Oui, ça pèse sur les indices. Le Dow Jones perd 1,89%, 23 764 points. Le Nasdaq recule, lui, de 2,06% à 9002 points. Alors, c'était déjà le cas hier, les espoirs de reprise de l'activité économique avec le déconfinement. Ces espoirs sont freinés par les craintes d'une deuxième vague de contamination avec une hausse des cas en Chine ou en Corée du Sud, par exemple. Du côté des valeurs, le géant Boeing perd 3% après des propos très pessimistes de son patron David Calhoun. Il imagine bien que cette crise finisse par pousser une grande compagnie aérienne américaine à la faillite. Ça, c'est même très probable selon lui. Et puis Tesla termine stable malgré le soutien de Donald Trump. Le patron de Tesla, Elon Musk, est furieux. Il le répète depuis plusieurs jours contre le confinement qui l'empêche d'ouvrir son usine en Californie. Eh bien, le président américain est d'accord avec lui et il l'a écrit aujourd'hui sur Twitter. À New York, le pétrole rebondit de 7%, 25,83 $. Et puis du côté des devises, l'euro gagne 0,4%. Il s'échange contre 1,0854 $.
Et à Paris, Claire, le CAC 40, lui, a terminé la journée en très légère baisse.
Ouais, le CAC 40 perd 0,39%, 4 472 points. Le climat d'incertitude est palpable à Paris également. Côté valeur, Engie cède plus de 4%. Le fournisseur d'énergie a été pénalisé par les premiers effets de la pandémie et par une météo plutôt douce cet hiver. On retiendra aussi la dégringolade de Genfit, moins 65% ce soir pour Genfit, qui est une des grandes entreprises de biotechnologie française. Elle planche notamment sur un un traitement contre la NASH, cette maladie du foie liée à une consommation trop importante de sucre. Les derniers résultats sont décevants pour ce traitement, ce qui entraîne une sanction en bourse.
Alors l'opérateur télécom Iliad, lui, Claire, est en hausse ce soir.
Oui, la maison mère de Free a publié ses résultats. Elle a recruté 100 000 nouveaux abonnés pour ses offres mobiles 4G au premier trimestre. Du coup, Iliad gagne 4%. Et puis les résultats sont salués aussi pour Alstom. Après une publication solide, Alstom grimpe de près de 7%. Les marchés sont partagés ce soir en Europe. Londres gagne 0,9%, mais Francfort est quasi stable en très léger repli. Milan avance de 1%, plus 1,4%. Pour Madrid, Bruxelles plus 0,2 et à Paris, le CAC 40 perd 0,4% à 4 472 points.
Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet. On vous dit à demain. Claire Lemaître de Boursier.com. Et il est temps de retrouver l'invité d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir le PDG de Système U.
Bonsoir Dominique Selcher.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. On est très heureux de vous avoir. Vous êtes le patron de Système U France et vous avez vous-même un Système U, je crois, du côté de Fessenheim. Alors la première question est toute simple. Qu'est-ce que le déconfinement a changé, si jamais ça a changé quelque chose?
Pour nous, le déconfinement, c'est la suite du confinement en fait. Il n'y a pas de changement pour nous opérationnellement, puisque depuis le premier jour du confinement, on était organisé avec les gestes barrières, avec la protection des collaborateurs, évidemment, avec la distanciation sociale. Donc, très souvent ces derniers temps, on était d'ailleurs un peu pris en exemple, en général, je dirais, pour ce qui pouvait être mis en place dans d'autres entreprises. Et on a eu d'ailleurs des demandes dans ce sens. Comment avez-vous fait ci? Comment avez-vous fait ça? Donc, pour nous, voilà, le 11 mai, la suite logique de ce que nous avons vécu pendant 2 mois.
Mais est-ce que malgré tout, les gens, avant, avaient besoin d'une attestation pour aller faire leurs courses, disaient peut-être qu'ils allaient y aller une fois seulement par semaine et donc faire de très grosses courses? Est-ce que vous commencez à voir qu'avec le déconfinement, les gens reviennent un petit peu plus faire leurs courses plus régulièrement?
C'est encore trop tôt pour le dire. Depuis le début de la semaine, la fréquentation est assez soutenue parce que, bon, effectivement, je pense que des gens qui restent un peu plus à la maison viennent plus souvent, mais c'est trop tôt. On est mardi soir pour tirer des conclusions générales. Vous savez, pendant le confinement, on a été très surpris par ce qui s'est passé. Je prends juste un exemple. Le lundi, dans bien de nos magasins, est devenu ce qui était avant le samedi. Et le samedi est souvent devenu une petite journée. Mmh. Voilà, donc les gens ont changé complètement leurs habitudes. Quels comportements vont-ils avoir maintenant? Nous ne le savons pas encore.
Est-ce que vous pensez malgré tout que des changements que l'on a pu voir apparaître vont se maintenir? Par exemple, le fait que l'on faisait de moins en moins souvent les courses faisait qu'on achetait des choses en plus grande quantité. Alors, on a beaucoup parlé de la farine et tout, mais je crois que c'est très intéressant. Par exemple, sur les yaourts, avant on avait tendance plutôt à les acheter en 6 ou en 12, et là maintenant on les achète par 24.
Oui, mais c'est une question qu'on se pose. On va probablement chez U proposer au moins pendant un temps, effectivement, plus de gros conditionnants parce que les gens ont eu l'habitude de stocker un peu davantage. Ils sont plus nombreux à la maison, il faut cuisiner davantage et donc les quantités ont été plus grandes. Et ça, c'est probablement une tendance qui va perdurer quelques temps.
Quand vous dites que vous allez proposer des choses, ça veut dire quoi? Donnez-nous des exemples.
Il y a une opération régulière chez nous qui s'appelle l'opération gros volume. On va renforcer nos propositions sur cette opération commerciale-là avec des gros volumes plus importants encore et peut-être même des produits qui finalement seront vendus régulièrement en rayon en gros volume, ce qui n'était pas toujours le cas avant.
On parle beaucoup de la farine, c'est un exemple. Donnez-nous quelques exemples de produits qui pourraient être concernés.
Oui, alors la farine, c'est un exemple. En temps normal, elle était vendue en paquet de 1 kg. Là, très facilement, on la vendait en paquet de 2, 3 kg, voire même 5 kg à la campagne. Ça, c'est un exemple. Alors, l'exemple le plus flagrant, c'est tout ce qui a été papier WC et essuie-tout pendant cette période. Ça a été absolument incroyable. Les gens ont fait des stocks très importants et en des gros volumes qu'on ne connaissait plus depuis un certain temps. Vous avez cité les produits frais. Il y a un produit phare qui s'est vendu dans des quantités incroyables et en très grand paquet, c'est le gruyère râpé, qui allait évidemment avec toutes les pâtes qui ont été vendues au début du confinement. Et ça, c'est aussi un produit qu'on vendait en gros volume un peu moins. Les gens préféraient les plus petits paquets, mais là, pendant la crise, c'est vraiment le très grand paquet qui a eu beaucoup, beaucoup de succès.
Et ça, vous pensez que ça pourrait du coup se poursuivre?
et on pense que ça pourrait se poursuivre. Alors il y a toutes ces habitudes-là autour des produits, et il y a bien sûr une habitude qui va elle aussi se poursuivre, c'est le succès du e-commerce hein, et du drive notamment.
Quel est par ailleurs l'état d'esprit aujourd'hui de vos collaborateurs? On n'a pas arrêté de les présenter comme ceux qui sont en première ligne, comme ceux qui ont le courage d'aller travailler. Ils sont épuisés, j'imagine, par ces mois et ces semaines de crise.
Je dirais pas ça. Par contre, ce que je vais vous dire, il y a deux mois, au début de cette crise, à certains moments, on a pu craindre tous ensemble que cette chaîne craque. Faut le savoir, hein. Il y a eu des moments de doute parce que l'absentéisme est monté très fort, à la fois dans la distribution et chez certains industriels. La chaîne a finalement tenu. Pourquoi ? Pour une seule raison, par l'engagement formidable de tous ces gens. Ils ont tenu par esprit de service public de l'alimentation. C'est véritablement ça. Ils ont eu le sentiment d'avoir une mission extrêmement forte au service des Français. Ils ont été portés par ça et ils l'ont tenu. Alors bien évidemment, au fur et à mesure du temps, on a quand même donné des congés, on a donné du repos parce que les gens n'auraient pas pu tenir tout le temps. Donc si vous voulez, nous on a trouvé notre rythme dans cette crise.
Et est-ce qu'ils ont eu chez Système U les primes sur le salaire du mois d'avril et ou là du mois de mai ?
Notre engagement, et je l'ai dit dès le 23 mars, a été de verser la prime à tous les collaborateurs de la logistique de U, soit 6000 personnes. Cette prime sera versée sur la paye du mois de mai. Concernant les collaborateurs des magasins, je vous rappelle que nous sommes une coopérative de commerçants indépendants, donc c'est chaque patron de magasin qui va se déterminer. Mais le dernier sondage que j'ai fait parmi mes 1200 patrons montre que la grande majorité va pouvoir verser cette prime, et beaucoup l'ont déjà fait dès le mois d'avril. Mais bien sûr, les gens le méritent.
On voit aussi maintenant des masques à vendre dans la grande distribution, notamment chez Système U. Comment ça se passe? Combien vous en avez vendu?
Les ventes sont bonnes et régulières depuis leur mise en vente le 4 mai. Ce qu'on a essayé de faire chez Système U, ça a été de faire des ventes en petits paquets de 5 ou de 10 masques pour permettre de toucher le plus grand nombre. Ils sont vendus en caisse pour justement aussi gérer la pénurie. Et comme nous sommes livrés assez régulièrement, normalement, il ne devrait pas y avoir de difficultés dans le temps.
Eh bien, en tout cas, un grand merci à Dominique Schelcher d'avoir accepté cette interview ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes à la tête de Système U. On se retrouve nous demain, 22h20 sur Europe 1.
On vous dit effectivement à demain. Merci à vous, Emmanuel Dutheil.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Et dans un tout petit instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. L'école forcée de se réinventer, titre le journal La Croix, avec la photo en une d'une enseignante masquée aux côtés d'une élève dans une école de Seine-Maritime pour cette reprise partielle des cours dans certaines classes. On en parlait tout à l'heure dans votre journal. Les établissements testent un fonctionnement hybride d'enseignement en classe et à distance susceptible d'être reconduit l'an prochain. Crise économique, la France plus touchée que les autres, écrit le Figaro. Sous l'effet du coronavirus, l'économie française s'est contractée de 5,8% au premier trimestre, davantage que dans le reste de l'Europe. Cette année 2020 s'annonce décidément très difficile. Emploi, le plan secret pour un grand remplacement, titre l'Opinion, qui nous apprend que le gouvernement réfléchit à la manière d'orienter les salariés des secteurs sinistrés par la crise sanitaire vers des métiers plus porteurs et liés, par exemple, pourquoi pas, à la transition écologique. La démocratie reprend en partie ses droits, écrit Laurent Baudin dans le journal L'Alsace. Le feu vert donné par le gouvernement sous l'égide du conseil scientifique à l'installation des conseils municipaux dans les 30 000 et quelques communes dont les habitants ont élu tous leurs représentants le 15 mars dernier dépasse le symbole de la fin partielle d'un état d'exception. La prochaine installation des nouveaux conseils municipaux avec la désignation des maires et de leurs adjoints et par conséquent la mise en place des exécutifs de nombreuses communautés de communes va débloquer une situation qui est figée depuis le 15 mars. Elle va permettre d'éclaircir les responsabilités et de mettre fin à des querelles de clochers dignes de Don Camillo. Relocalisation, le nouveau rêve français, écrivent quant à eux les Échos. La crise sanitaire a ouvert le débat de la relocalisation industrielle. Les pistes sont nombreuses, mais les freins au rapatriement également. Et puis Daniel Cohn-Bendit est à la une de Libération demain avec ce titre. Si l'Europe s'effondre, ce sera un suicide allemand. La Cour constitutionnelle allemande fustige en effet le droit européen au risque de saborder la relance économique post-Covid et l'euro. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous pourrez retrouver demain matin dans vos kiosques. Et à 22h30, tout pile, je vous souhaite une excellente soirée. Elle sera excellente forcément puisque vous êtes en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.